C'est le fruit le plus vendu en France, la pomme. Chaque ménage en consomme par an 18 kilos. C'est aussi le fruit le plus traité de France. Avant d'être croquée, la pomme reçoit une trentaine de produits phytosanitaires différents. De quoi faire réfléchir Blanche-Neige. La France est l'un des plus gros consommateurs de pesticides au monde, malgré un engagement de diviser par deux leur usage et qui date d'il y a longtemps. 2007, c'était le Grenelle de l'environnement. À l'époque, Nicolas Sarkozy était président. Le Covid, personne n'en avait jamais entendu parler. Et la France n'avait gagné qu'une seule fois la Coupe du Monde de football. Beaucoup de choses ont changé depuis, sauf peut-être la consommation de produits phytosanitaires. Elle a un peu baissé, mais loin des objectifs attendus. Peut-on se passer de pesticides? C'est la question qu'on se pose aujourd'hui.
Thomas Chauvineau, le débat de midi sur France Inter.
Mais comme tous les jours, on commence l'émission en ouvrant le journal et c'est le hors-série de Philosophie Magazine qu'on feuillette ce midi avec vous. Sven Ortoli, bonjour.
Bonjour.
Un hors-série consacré à l'amitié et notamment cet article que vous consacrez à l'amitié au temps des réseaux sociaux, un peu Montaigne et la Boétie 2.0 finalement.
Alors c'est un peu ça, mais c'est aussi une critique, la reconnaissance que les réseaux sociaux ne suffisent pas. D'ailleurs, on l'a tous plus ou moins vécu pendant cette période, c'est-à-dire que l'amitié à distance, ou l'amitié par Skype ou l'amitié par Zoom, ça va un temps. On a besoin d'avoir ce contact, cette vision, cette odeur. Enfin, tous les cinq sens sont mobilisés dans l'amitié. Et on a demandé pour essayer de regarder ce qui se passe chez les jeunes gens, jeunes filles, enfin, jeunes hommes et jeunes femmes qui ont entre 20 et 30 ans, grosso modo, on a organisé une espèce de banquet ou de rencontre, si vous voulez, où on leur a posé la question, alors c'est quoi pour vous? Qu'est-ce que ça représente? Quelle est son importance?
Ce qu'il y a d'intéressant, c'est que ces jeunes dont vous parlez, si jeunes, garçons et filles, sont pas dupes de ce que représentent les réseaux sociaux. Nicolas, par exemple, dit que ça ne trompe personne et en même temps, tout le monde le sait, on est en représentation sur les réseaux. C'est un jeu auquel personne ne croit vraiment.
Oui, tout à fait juste. Oui, c'est même, c'est à la fois une évidence, c'est-à-dire qu'ils le disent et en même temps ils participent de ces réseaux sociaux. Et ils ne sont pas dupes, comme vous dites, parce que, par exemple, il y en a un qui insiste sur l'aspect figé des renseignements qu'on peut lire si on suit quelqu'un, on suit un copain sur un réseau ou sur un autre. Et c'est un peu comme lorsque un roman que vous avez aimé passe en film. Eh bien, le film va figer des images pour vous en mettant des acteurs. Ben, je trouve que c'est un peu ça ce qui se passe sur les réseaux sociaux. Et c'est l'impression que m'a donné, c'est ce à quoi m'ont fait réfléchir ces garçons et ces filles, c'est au fond l'abondance de renseignements qui fige comme ça la vie de quelqu'un, comme si on était résumé à quelques événements choisis et interprétés à sa manière.
Puisque vous parlez...
Donc, ils sont pas dupes.
Puisque vous parlez de films, c'est Lucille qui dit « Ce que l'on y voit de l'autre, donc sur les réseaux sociaux, n'est qu'une mise en scène, un spectacle. »
Exact. Encore une fois, ils sont très lucides là-dessus. Lucie est lucide. Elle le voit très bien. Et pourtant, elle n'y renonce pas parce que ça fait partie de leur monde. Ce que j'ai trouvé intéressant dans leurs propos, c'est à la fois qu'ils ont une vision très classique de l'amitié, parce que l'amitié, c'est classique. Depuis qu'on en parle, depuis que Platon et Aristote en parlent, ça fait 2500 ans, il y a des choses qui n'ont pas changé dans l'amitié, et il y a aussi des choses qui ont changé. Ils ne donnent pas une définition bien précise, parce que c'est très dur, que vous citiez Montaigne, bien parce que c'était lui, parce que c'était moi, ça nous a tenu lieu c'est pas une définition, c'est juste une expression, c'est juste un sentiment, c'est juste quelque chose qui résume.
Qui a traversé les siècles quand même.
Ah oui, non, mais je suis d'accord avec vous. Et qui traverse parce qu'elle est belle, mais elle ne dit pas toute l'amitié. Parce que l'amitié, tout n'est pas dissible. Enfin, ce que je veux dire, c'est qu'on peut chercher des définitions et eux-mêmes en ont cherché. Alors, au fond, si je résume leur portrait, le portrait qu'ils en font à eux six, c'est basé sur la franchise, sur la confiance, sur le fait qu'on tombe les masques sociaux et que à un moment il y a une rencontre qui est pas forcément immédiate, qui peut prendre du temps. Ça c'est pour la partie classique, je dirais, de leur vision d'amitié. Puis il y a une autre partie, moi qui m'a vu ma génération à moi, qui m'a un peu plus surpris, c'est lorsqu'ils parlent du corps et du désir, c'est-à-dire qu'ils disent d'une part que ils reconnaissent qu'il y a du désir dans l'amitié qui peut être parfois proche du désir sexuel. que amitié et amour sont à la fois loin et très proche. Alors pourquoi c'est loin? Bah parce que, vous savez, comme vous savez, un ami sans amitié, c'est une contradiction dans les termes, alors que un amoureux non aimé, bah c'est une situation non banale, c'est-à-dire qu'on peut aimer sans retour en amour, pas en amitié. Il faut être deux. Néanmoins, pour eux, cette frontière qui était évidente pour moi n'est plus aussi nette. Ils disent, il y a toujours du désir dans l'amitié. Nos amis, je cite l'une des participantes, parce qu'il y avait quatre jeunes femmes et deux jeunes hommes, dit, nos amis sont tous des amoureux en puissance. C'est quand même, c'est un changement qui d'ailleurs correspond grosso modo à ce qu'on voit aujourd'hui dans les rapports sexuels, dans les rapports du désir. Quoi.
Et indifféremment d'ailleurs du genre de l'ami, c'est-à-dire qu'il peut y avoir des relations, sans parler d'homosexualité ni d'hétérosexualité, parce que c'est pas la question, des relations qui deviennent des relations amoureuses, quel que soit le sexe.
Absolument, ça aussi c'était frappant. L'une des participantes dit je suis hétérosexuel, néanmoins en amitié parfois je sens que lorsque j'ai des désirs, c'est pas pour un garçon ami mais c'est pour une fille amie. Donc c'est cette frontière qui est cette frontière des sexes qui s'atténue, je la voyais en quelque sorte disparaître, peut-être pas disparaître, mais s'atténuer au fil de la conversation, c'est quand même une vraie nouveauté.
Eh bien merci Sven Ortely, entre amis, un banquet philosophique donc jouissif aussi à lire dans les pages de ce hors-série de Philosophie Magazine consacré à l'amitié.
Stop ! Jamy, qu'est-ce qu'il y a là dans ton bidon ?
Bah, un insecticide. T'as vu la tête de mon tournesol? Il est tout plein de pucerons.
D'accord, Jamy, mais bon... Tu sais que certaines personnes pensent que ces produits ne sont pas très bons pour l'environnement et peut-être même pas très bons pour la santé.
Et mon tournesol?
T'inquiète pas, Jamy, je suis sur le coup.
Sabine a raison, on va faire une enquête sur ces produits chimiques. Incognito.
Un extrait de C'est pas sorcier avec Jamy pour ouvrir cette émission aujourd'hui et quatre invités pour s'intéresser à la question des pesticides. Jean-Marc, bon matin, bonjour.
Oui, bonjour.
Vous êtes chercheur, chimiste et toxicologue au CNRS. Samuel Vandal, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes président des jeunes agriculteurs, agriculteur vous-même en Île-de-France. Catherine Hill, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes épidémiologiste à l'Institut de cancérologie, Gustave Roussy. Et puis Benoît Biteau, bonjour.
Bonjour à vous.
Agriculteur bio et député également au Parlement européen au sein du groupe écologiste. Samuel Vandal, je le disais, donc vous êtes agriculteur en Île-de-France. Vous faites des céréales, de la betterave, du maïs, du colza également. Est-ce que vous pourriez vous passer de pesticides ?
À l'état actuel des choses, non. Parce que je pense qu'en France, on a un vrai souci, c'est qu'on manque d'outils de production. Et pour avoir des outils de production viables et fiables, on a besoin d'un vrai centre de recherche, on a besoin d'avoir des outils de recherche pour trouver des alternatives, que l'on n'a pas aujourd'hui. Juste pour vous dire quand même qu'aujourd'hui, moi je connais pas un agriculteur qui est fier d'utiliser des produits phytosanitaires. Aujourd'hui, on aimerait tous s'en passer. L'exemple, il est assez flagrant cette année. Comme tout le monde l'a pu le voir, on n'a pas un été digne de ce nom, très pluvieux, et on a aujourd'hui un certain nombre de productions qui sont directement impactées par cet excès d'eau. Je pense à l'ensemble des productions d'un potager, tomates, pommes de terre, qui sont directement affectées par une maladie qui s'appelle le mildiou. Et on se rend bien compte aujourd'hui que on soit en bio ou en conventionnel, l'ensemble de nos cultures sont directement attaquées par le mildiou. On a des produits de substitution, je pense à la bouillie bordelaise par exemple qui a été énormément développée, mais qui arrive à ses limites. Et malheureusement aujourd'hui, en agriculture biologique, moi j'ai trois voisins qui ont déjà retourné leurs pommes de terre et leurs tomates. Si on n'avait pas accès à un produit phytosanitaire correctement utilisé, on risquerait de ne pas manger de pommes de terre et de tomates cette année.
Benoît Biteau, vous êtes également agriculteur. Votre père était un gros utilisateur de pesticides et vous avez décidé de complètement changer et de transformer sa culture intensive en une approche beaucoup plus biologique. Aujourd'hui, vous êtes agriculteur en bio. Est-ce que ce changement a été facile à mettre en œuvre ?
Ben oui.
Eh oui, moi j'ai envie de porter un message.
Vous voyez, Samuel Mandel, c'est possible.
J'ai envie de porter un message optimiste, mais contrairement à ce que disent beaucoup, beaucoup disent il faut une transition douce. Alors il faut une transition douce en amont du moment où effectivement on bascule, parce que ça rejoint un peu ce qu'a dit Samuel malgré tout, c'est que il faut imaginer le modèle qui va permettre de s'affranchir des substances de synthèse, puisque moi, au-delà des pesticides, j'utilise plus non plus de produits de synthèse en général. Mais ça convoque une multitude de solutions qu'il faut apporter au moment où on fait la bascule. Et donc, ça veut dire une transition radicale, franche, et qui soit pas une transition douce, parce que la transition douce, parce que justement, on met pas toutes les solutions en même temps, au bon moment, sont parfois des dynamiques de l'échec. Mais une fois qu'on a construit la logique, et je parle de logique et je parle plus de modèle, parce que une fois qu'on a compris une logique, il y a autant de modèles que d'agriculteurs, eh bien, on doit pouvoir réussir, et on doit faire la transition assez radicalement, et on a des résultats qui sont assez remarquables et spectaculaires. Mais il faut oser construire cette logique, et le mot compte, cette logique avant de faire le basculement.
Alors on parle évidemment d'agriculture essentiellement, et on va essentiellement parler d'agriculture au cours de cette émission, mais les pesticides, Jean-Marc Bonmatin, ne concernent pas uniquement l'agriculture. Nous-mêmes, nous en utilisons régulièrement dans la vie courante pour nous débarrasser des mouches, des moustiques par exemple.
Oui, effectivement, les pesticides ne sont pas utilisés que en agriculture, même si c'est le secteur qui en utilise largement le plus. On retrouve les pesticides dans la vie courante, puisqu'on introduit énormément de pesticides dans nos maisons. Par exemple, on ne supporte pas la présence de moustiques, de mouches. Alors les moustiques, je peux comprendre, hein. Il y a d'autres solutions alternatives, le moustiquaire par exemple. Et puis même sur nos animaux domestiques, je vais donner cet exemple. Les chiens et les chats sont traités contre les puces et les tiques avec les mêmes pesticides que ceux qui sont utilisés en agriculture, il faut le savoir. Donc on introduit dans la maison, dans nos habitations, les appartements, des pesticides qui évidemment se diffusent un petit peu partout, qui ont des durées de vie assez longues et qui nous exposent, et donc qui vont avoir des effets sur notre santé.
Alors qu'est-ce qu'on peut faire pour ne plus introduire ces pesticides? Qu'est-ce qu'on peut faire pour lutter contre les puces du chien? Qu'est-ce qu'on peut faire pour, à part la moustiquaire, lutter contre les moustiques?
Eh bien, c'est exactement la même chose qu'en agriculture. Il faut se poser la question de savoir à quoi ils servent et comment on faisait avant. À quoi ils servent? C'est une solution de facilité. Avec un produit chimique, je suis chimiste moi-même, donc j'ai un peu de gêne à critiquer la chimie, mais avec un produit chimique, on imagine que c'est la solution miracle. Alors qu'il y a d'autres solutions qui sont moins polluantes, hein, pour notre environnement, pour notre nourriture, pour l'eau qu'on consomme, pour l'air qu'on respire, qui sont assez simples finalement. Alors j'avais l'exemple de la moustiquaire, hein, qui protégeait contre les moustiques. Vous mettez des moustiquaires aux fenêtres, vous n'avez plus besoin de pesticides anti-moustiques. En tout cas, la nuit, quand vous dormez tranquillement. Pour les chiens et les chats, il y a d'autres solutions. Vous avez, alors je ne veux pas faire de la publicité, mais vous utilisez par exemple des produits naturels répulsifs qui empêchent les puces et les tiques d'envahir votre chien ou votre chat. Vous utilisez de la terre de diatomée qui va finir par tuer celles qui sont présentes sur les animaux domestiques, et vous n'utilisez pas de produits qui sont en général extrêmement toxiques, en particulier neurotoxiques. Vous savez bien que les chats, ils se baladent sur les lits, ils sont partout dans la maison, et ils diffusent ces produits partout, et notamment auprès des jeunes enfants.
Alors, est-ce que le problème, Catherine Hill, c'est pas qu'on a justement plus facilement accès à ces produits chimiques que aux produits naturels dont vient de parler Jean-Marc Bonmatin?
Rien, il y a beaucoup de... Les plantes fabriquent beaucoup de pesticides pour se protéger et pour pouvoir pousser. Donc, des pesticides naturels, il y en a des tas. Mais la distinction entre naturel et artificiel, franchement, on s'en fiche un peu. Vous broyez la digitale parce que vous avez besoin de digitaline ou que vous achetiez un comprimé de digitaline à la pharmacie, vous avez quand même intérêt à acheter le comprimé de digitaline à la pharmacie parce que la dose sera précise, tandis que si vous faites votre décoction digitale, vous pouvez facilement en mourir, donc c'est pas raisonnable. Donc la notion synthétique ou naturelle, franchement, c'est pas une distinction très pertinente.
Alors quelle serait la distinction à avoir?
Mais il y a des produits dont on sait qu'ils sont dangereux et qu'il faut utiliser avec précaution, et d'autres qui sont inoffensifs Et dans les pesticides, déjà, c'est une famille extrêmement vaste. Il y a herbicides, fongicides, insecticides, et puis des produits contre d'autres espèces animales, comme les limaces, les souris, les rats, etc. Donc, c'est un vaste monde de produits. Et certains sont considérés comme toxiques et ont été d'ailleurs retirés du marché. On a retiré, par exemple, le lindane, qui est considéré comme cancérogène, a été retiré en 1997, le diazinon en 2007 et le malathion en 2008, avec une dérogation pour l'outre-mer, je me demande bien pourquoi. Mais donc, on étudie les produits, on les surveille, et s'ils sont dangereux, il faut soit les garder en faisant très attention, soit les supprimer. Mais tout est dangereux, l'eau de Javel est dangereuse, le jus de carotte, si vous en prenez trop, est dangereux. Donc c'est une question de balance entre le bénéfice et le risque.
Le problème, c'est qu'on voit bien que certaines études sont contradictoires. Et si on parle par exemple du glyphosate, dont on a déjà beaucoup entendu parler, vous avez des études qui vous disent oui, c'est cancérogène, et d'autres études qui vous disent non, ce n'est pas cancérogène, Benoît Biteau.
Alors, ça dépend de ce qu'on recherche, hein. C'est-à-dire que, et d'ailleurs, on travaille sur une étude là en lien avec les agences sanitaires, enfin l'agence sanitaire européenne et les agences sanitaires nationales, pour modifier l'évaluation. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a des évaluations qui sont elles-mêmes contestables. C'est-à-dire qu'on continue d'évaluer la toxicité des pesticides par rapport à la dose qui provoque ce qu'on appelle une crise aiguë liée à l'exposition des pesticides. Sauf que ce qu'on remarque, et je pense que Jean-Marc Bonmatin ne dira pas le contraire, c'est que l'exposition, quelle que soit la dose, est aussi dangereuse. Et c'est le problème du glyphosate. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on évalue le glyphosate, qui est une molécule qui n'est pas la plus dangereuse qu'on ait trouvée sur le marché.
Qu'un herbicide très puissant et vraisemblablement le plus vendu au
voilà,
monde.
C'est un herbicide total qui est efficace et qui, en plus, a pris son envol complètement avec des OGM qui sont Roundup Ready, donc qui sont résistants au glyphosate, des cultures qui sont résistantes au glyphosate, qui permettent, donc avec un herbicide total, de nettoyer tout ce qu'il y a autour de la plante qu'on cultive grâce à ces OGM. Donc il y a effectivement autour du glyphosate un vrai marché. On l'évalue par rapport à des doses d'exposition qui peuvent provoquer des toxicités aiguës, et ça c'est pas contestable, sauf que c'est pas là où le glyphosate pose un problème, c'est sur l'exposition dans la durée, c'est-à-dire quelle que soit la dose. Et en plus, on n'évalue pas ce qu'on appelle les métabolites de décomposition du glyphosate, qui pour certains sont nettement plus dangereux que la molécule elle-même. Et dernier écueil dans l'évaluation, c'est qu'il y a des coformulants en spécialité commerciale qui passent complètement sous le radar de l'évaluation et qui pour certaines molécules sont nettement plus dangereuses que le glyphosate lui-même.
Samuel Mandel.
Sur le sujet du glyphosate, c'est un sujet très complexe, hein, qui fait polémique.
On va vous donner la parole après, Catherine Hill. Écoutons Samuel Mandel, et juste après, on prendra la parole.
Quelques rappels. Premièrement, vous faisiez le parallèle entre les pesticides utilisés dans la vie quotidienne, sur les chiens, les chats et autres, et des agriculteurs. Juste rappeler qu'aujourd'hui, les agriculteurs, pour utiliser un produit chimique ou non, en agriculture biologique ou en agriculture conventionnelle, les agriculteurs sont formés. Et ça, c'est pour moi très important de le rappeler. On a un diplôme qui s'appelle le Certiphyto, justement, qui permet justement de faire attention à notre utilisation, à notre pratique et autres. Donc ça, c'est le premier point. Et puis, l'utilisation des produits phytosanitaires en agriculture est réglementée avec des doses, des applications, du vent, de l'hygrométrie, qui permet justement d'avoir la meilleure dose au même endroit. Et les agriculteurs font de plus en plus attention. Je voudrais revenir sur le glyphosate, qui a fait énormément, je vais essayer de faire court, qui a fait polémique. Le glyphosate, aujourd'hui, le problème du glyphosate, c'est pas de le retrouver dans nos aliments. En France, il est interdit de traiter une culture alimentaire avec du glyphosate. Le problème, c'est les résidus et tout ce qui nous entoure. On est trois sur le plateau, là. On est trois à porter du glyphosate. On a trois jeans. 90% des jeans sont fabriqués avec du coton qui ont été traités au glyphosate. Donc c'est aussi ça qu'il faut faire attention. Je pense qu'il y a un lien de... Il faut être cohérent. On peut être anti-pesticides, anti-tout, mais à ce moment-là, c'est comment on trouve des solutions pour amener des réponses. Et de se dire qu'on est anti-pesticides, mais par contre, s'ils sont faits à l'extérieur et que je les porte, ça ne me pose aucun problème. Ça me pose problème.
Catherine Hill.
Oui, alors le glyphosate, d'abord, on étudie les expositions des humains. On fait les études pour le glyphosate, pour le lindane, le diazinon, le malathion et le paraquat et tout ce que vous voulez. Et on se demande si, par exemple, pour ce qui est de la cancérogénicité, que je connais un petit peu moins mal, on fait des études et on va chercher, donc c'est pas des études de toxicité aiguë à des doses fortes, on regarde les hommes qui sont les plus exposés. Et les hommes, les personnes, les humains qui sont les plus exposés, à un pesticide, ce sont un, les gens qui travaillent dans les usines qui fabriquent ces produits, et deux, les épandeurs qui font le travail d'aller répandre ces produits dans les champs. Il y a des gens qui font ça plus spécialement, et puis les agriculteurs, donc certains sont plus exposés que d'autres. On fait les études sur ces gens, et on constate, pour la plupart des produits, pour certains produits, des augmentations des risques de certains cancers. Par exemple, une augmentation du risque de lymphome non-Hodgkinien avec le lindane. Mais ces augmentations de risque ne sont pas très importantes dans ces études, parce que les agriculteurs, souvent ce sont des études qui ont été commencées il y a déjà quelques années, et donc il s'agit des gens qui ont été exposés il y a 10, il y a 15 ans ou il y a 20 ans, quand on faisait beaucoup moins attention. Mais ce qu'on ne trouve pas du tout, des augmentations de risque de lymphome non-Hodgkinien énormes. On trouve même pas un doublement du risque quand on compare les agriculteurs qui manipulent un produit précis et les agriculteurs qui ne le manipulent pas. Si on trouve 20% de lymphome en plus chez les exposés comparé aux non-exposés, c'est déjà un signal.
Mais c'est beaucoup, mais 20%.
20% en plus, c'est beaucoup, mais le tabac multiplie le risque de cancer du poumon par 10.
Oui, mais le tabac, on le sait. Le glyphosate, on le sait peut-être un peu moins.
Mais c'est beaucoup plus difficile de détecter des augmentations de 20%. C'est parce que vous allez faire une étude sur 5000 agriculteurs, vous allez avoir 20 cas dans un groupe et 16 dans l'autre. Donc, c'est un signal, bien sûr, mais ce n'est pas un signal très, 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 très fort. Et c'est pour ça qu'il y a tellement de débats. En fait, ces produits tels qu'ils sont utilisés augmentent les risques. Certains augmentent des risques, mais ils augmentent un peu les risques. Et c'est difficile à démontrer. C'est pour ça qu'il y a tous ces débats.
Sur franceinter.fr, ces messages qui nous arrivent, Marcel nous dit, les produits phytosanitaires comme les antibiotiques ne doivent pas être utilisés automatiquement. Le monde de l'élevage a réussi à diminuer fortement l'utilisation des antibiotiques, mais dans les champs, c'est plus compliqué car c'est un milieu ouvert, difficile à contrôler. Et puis Youn nous dit, mon jardin est mitoyen d'une ancienne pâture reconvertie en champ de céréales. Récemment, un épandage de biocides a débordé sur mon potager, détruisant quelques plantes. Il y a pourtant une limite de 5 mètres à respecter. Puis Florent, qui est ouvrier viticole, nous dit, on ne peut pas se passer de pesticides. Il y a 300 molécules autorisées dans le bio et aucune n'a pu stopper le mildiou cette année. Seule l'agriculture conventionnelle a réussi à limiter les dégâts. Peut-on se passer de pesticides? C'est la question qu'on se pose aujourd'hui avec vous. On attend donc toujours vos questions, vos réactions sur l'appli ou sur le site de France Inter. Et juste après le disque, nous serons au téléphone avec la Martinique pour évoquer le scandale du chlordécone. Il est midi 27. Et bonne journée à vous.
Cherchant notre chemin, on s'était arrêté dans une ville éventrée, le monde s'embourbait dans les rues encombrées. Poursuivis par des averses sans fin, vite nous nous sommes engouffrés dans une bouche de métro édentée, un escalator mécanique désarticulé. On se pressait dans la mêlée sans s'entendre ni se parler. Entre deux souffles, nos sens à l'affût désorientés, on a suivi le flux. Comme un intestin, on a suivi les gens dans l'air moite, le fracas. devenait flippant. À coups de pelle mécanique frénétique, les bulldozers au-dessus nos têtes défonçaient les chaussées décrépites, ignorant les frêles, les mous, les neurasthéniques. Les flics semaient le chaos avec leurs sirènes américaines. Entre deux souffles, nos sens à l'affût désorientés.
Dérives urbaines dans la ville cannibale, un titre signé Françoise Breu.
Le débat de midi, à retrouver pendant tout l'été à midi sur France Inter et en podcast sur franceinter.fr.
Je fais tout mon jardin sans produits chimiques aucun.
Je cultive tout mon potager, tout mon jardin, mon verger en culture biologique. C'est-à-dire qu'il n'y a aucun engrais chimique, aucun herbicide et aucun insecticide.
Mais ça, ce sont des tomates, ça ne sont pas d'hybrides. Moi, je n'aime pas les hybrides, je me méfie des hybrides. Ce sont les vieilles tomates d'autrefois qui s'appellent de la marmande, c'est très bon.
Vous aurez peut-être connu la voix de Louis de Funès qui faisait la visite de son jardin en 1979. Pas de pesticides, donc à une époque où, pour l'an, pourtant, on parlait assez peu du danger des pesticides. Quatre invités aujourd'hui pour se poser cette question. Peut-on justement se passer des pesticides comme Louis de Funès, Samuel Vandel qui est président des jeunes agriculteurs, Benoît Biteau qui est agriculteur biologique, Catherine Hill, épidémiologiste et Jean-Marc Bonmatin qui est chercheur au CNRS. Pendant le disque, le débat faisait rage entre vous, Samuel Vandel et Benoît Biteau, notamment à propos du mildiou qui fait des ravages cet été. Vous dites, Benoît Biteau, qu'on peut lutter contre le mildiou avec des méthodes entièrement biologiques.
Oui, mais c'est pour ça que j'ai du mal à parler d'agriculture biologique, parce que moi, pour moi, l'agriculture biologique doit être la conséquence de pratiques agronomiques abouties. Et c'est parce que on a réussi ces pratiques agronomiques abouties qu'on arrive à la certification à l'agriculture biologique.
Vous n'êtes pas touché par le mildiou.
Moi, je suis pas viticulteur, mais j'ai des pommes de terre, par exemple, qui sont pas touchées par le mildiou, mais parce que dans l'approche globale dont je parlais tout à l'heure, au moment où je fais le basculement et que j'ai suffisamment réfléchi à la logique, j'ai intégré des paramètres qui fait que je me suis attaqué à la cause du mildiou. Pourquoi est-ce qu'on a du mildiou? Parce que on utilise des ressources génétiques qui sont sensibles au mildiou et qui nécessitent que on les traite pour les protéger. Donc, alors que en travaillant sur des ressources génétiques
ça
plus
veut dire
rustiques,
en amont, il faut d'autres types de pommes de terre qui sont moins sensibles.
Mais bien
au
sûr,
mildiou.
Et là, on a des réponses qui fonctionnent.
Samuel Vandel.
J'entends ce que dit Benoît Biteau. Alors déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que le mildiou, il n'est pas attaqué partout en France de la même manière, parce que ça dépend de la pluviométrie, ça dépend aussi de l'humidité relative. Moi, j'entends tout ce qui est dit là, mais à un moment donné, il faut parler dans le vrai, dans le concret. Peut-être que Monsieur Benoît Biteau, et moi, je suis prêt à venir voir son exploitation, ce qu'il a fait. Moi, j'ai aussi des gens très pointus à côté de chez moi qui font de la patate, de la tomate. J'ai aussi beaucoup d'adhérents qui font de la vigne en agriculture conventionnelle, en bio, parce qu'on a tout le panel et qui sont d'une manière globale attaqué. Donc moi j'entends peut-être qu'il y a des choses à améliorer, mais qu'on le dise, qu'on le fasse, qu'on mette des moyens sur la recherche pour avancer sur ce sujet-là. Parce que n'importe quel consommateur qui a acheté ses tomates, alors qui les achète en grande surface ou qui fasse lui-même sa reproduction des graines d'une année sur année, est attaqué aujourd'hui par le mildiou, à part si elles sont sous serre. Ça, parce qu'elles sont sous atmosphère contrôlée, pluviométrie contrôlée. Mais aujourd'hui, la plupart sont attaquées, là où il y a eu la forte pluviométrie. Donc, moi, il faut à un moment donné qu'on parle dans le concret.
Mais c'est un déficit d'information ?
Déficit d'information ou de mauvaise information ou quoi, global quoi. Il faut qu'on arrive à avancer. Et aujourd'hui, je le vois bien, on n'y arrive pas.
Jean-Marc, bon matin.
Alors moi, j'ai plusieurs réactions. D'abord, sachez bien que je ne suis pas contre les pesticides, mais je trouve que l'usage massif, systématique et intensif en agriculture des pesticides doit être à proscrire. Il est là le problème. Ensuite, mon autre réaction, ça serait de dire, j'ai l'impression d'entendre aujourd'hui sur le mildiou, ce qui, il y a quelques mois, j'ai entendu sur la betterave sucrière avec le puceron vert, fameux puceron vert, et ce que j'avais entendu avant avec les néonicotinoïdes sur le maïs, le colza et le tournesol. Chaque fois, il y a un problème, on dit que les pesticides sont absolument nécessaires, et puis quelques mois après, on se rend compte qu'il y avait des alternatives, et c'est pour ça que je reviendrai sur le système de prévention. Effectivement, si on fait de la prévention, enfin, si on fait de la rotation de culture, si on prend des variétés de plantes qui sont plus robustes par rapport aux attaques d'insectes ou aux attaques de maladies ou des choses comme ça, on se met dans un système, un petit peu comme en santé humaine, hein, on se met dans un système où on n'aura pas besoin d'utiliser des pesticides les plus toxiques. Et donc, c'est vraiment un système qu'il faut faire évoluer, parce que la pratique actuelle, c'est l'utilisation massive et systématique des pesticides, ce qui amène la contamination généralisée de l'environnement, ce qui amène des pertes de biodiversité. Je parlerai par exemple des pollinisateurs qui sont en train de disparaître, et puis même des vertébrés, hein, qui sont en train de s'écrouler.
On a beaucoup parlé déjà, la disparition. Des abeilles.
Donc il faut considérer le coût global des pesticides et se dire à un moment donné que cet usage massif et systématique des pesticides, il va falloir qu'il évolue. Alors je comprends bien qu'il y ait un problème sur la pomme de terre ponctuelle, des choses comme ça, mais regardons les choses plus globalement.
Quand on regarde
les choses plus globalement, on se rend compte que les pesticides qu'on a cités, donc glyphosate, chlordécone, les néonicotinoïdes, tout ça, ont mal été évalués. Ils ont été mal évalués parce qu'on n'a pas regardé leur devenir, la pollution que ça allait engendrer, les effets, on n'a pas bien regardé l'efficacité, on n'a pas regardé les résistances qu'ils allaient induire, parce que plus vous utilisez un pesticide, plus il va provoquer de résistance, que ce soit chez les plantes ou chez les insectes. Et donc c'est une course infernale, et à un moment donné, pour stopper cette course infernale dont nous sommes les victimes, hein, je rappellerai qu'on a parlé de cancer tout à l'heure, de 20%, de maladies type Parkinson, Alzheimer, neurodéveloppement, autisme, je peux les citer, perturbateurs endocriniens, perturbations de la reproduction. Quand tout ça s'additionne, finalement, on se rend compte que les maladies qui nous affectent, c'est les maladies qu'on a introduites nous-mêmes, et les pesticides sont en grande partie responsables de ça.
Alors nous sommes au témoignage, nous sommes au téléphone... Jean-Marc, bon matin.
Oui.
Nous sommes aussi au téléphone avec Josiane Josse-Pelage. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes médecin, membre de l'Association médicale pour la sauvegarde de l'environnement et de la santé en Martinique.
Exactement, oui.
Merci d'être avec nous. Il est tôt chez vous en plus, hein, 6h37, puisqu'il est midi 37.
Il est midi 37
chez nous.
Le soleil se lève tôt et on se réveille tôt en Martinique.
C'est Santé publique, hein, Santé publique France qui le dit. En Martinique, le chlordécone a contaminé 9 dixièmes de la population.
C'est-à-dire qu'il y a 92% de la population qui est imprégnée, qui a du chlordécone dans le sang. Ça, c'est la dernière enquête Canary de 2017.
Avec
et en Guadeloupe, c'est 95% de la population. Effectivement, le chlordécone, comme tout le monde sait, c'est une molécule pesticide qui a été introduite dans les années 70 pour lutter contre le charançon de la banane. et qui a imprégné tout l'écosystème, c'est-à-dire 8 rivières sur 10, et les eaux souterraines, il y en a la moitié des eaux souterraines sont contaminées, et que l'on retrouve encore aujourd'hui, malgré l'interdiction d'utilisation de 93, 20 ans après, on retrouve encore le chlordécone comme molécule majoritaire dans les cours d'eau.
Avec quelles conséquences, Josiane Jospelage ?
Alors, les conséquences du chlordécone sont toujours différemment évaluées par les médecins locaux et par Santé publique France. Nous avons la neurotoxicité, parce qu'on parle beaucoup du cancer de la prostate, mais on oublie que l'essentiel du chlordécone, c'est la neurotoxicité qui a été connue depuis 1975, lorsqu'il y a eu un accident de l'usine de fabrication en Virginie. La neurotoxicité qui est assez particulière, qui consiste en un tremblement qui n'est pas vraiment le Parkinson, c'est ce qu'on appelle en médecine le tremblement essentiel, des troubles de la mémoire visuelle et une très grande fatigue. Et on sait les mécanismes de cette toxicité. Il y a une atteinte directe de l'énergie des cellules neuronales. Vous avez une atteinte de la thyroïde qui entraîne des retards mentaux, hein, des débilités, des retards mentaux, des troubles des apprentissages chez les enfants quand la femme enceinte a été contaminée. Vous avez une atteinte de la reproduction, une atteinte de la fertilité, aussi bien masculine que féminine.
Et qui concernerait combien de personnes en Martinique sur ces 9 dixièmes qui ont donc été exposés au chlordécone ?
Ce qui est difficile à savoir, c'est que Santé publique France ne fait pas de recherche dans ce sens. On a beau demander une recherche sur la neurotoxicité, l'AMSES l'a demandé à plusieurs reprises, on a demandé à Santé publique France d'évaluer l'atteinte de la thyroïde, parce que vous savez qu'à la naissance, on fait un dosage de TSH systématique. On leur a demandé d'essayer de nous dire s'il y avait effectivement une augmentation de cette hormone particulière, puisqu'ils ont déjà les résultats. Il s'agit simplement d'extraire dans les résultats nationaux la part des DOM et de voir si on a une surreprésentation d'insuffisance thyroïdienne. Et ça, on n'a jamais obtenu de réponse de Santé publique France. On n'a jamais évalué la neurotoxicité. C'est nous qui disons qu'il y a une neurotoxicité. Et vous avez le cancer de la prostate également, qui est un cancer hormonodépendant, qui est surreprésenté en Guadeloupe et Martinique. Donc on pense qu'il y a une part proportionnelle du chlordécone dans cette surreprésentation, et les mécanismes même ont été identifiés, c'est-à-dire une atteinte de certaines enzymes qui touchent la prostate.
Josiane Jospelage, on sait, des études ont déjà été menées, hein, on connaît la toxicité du chlordécone depuis en gros les années 1960. Comment vous expliquez que pendant plus de 30 ans, on a continué à utiliser à ce point un produit jugé, déjà étudié, toxique ?
Mais écoutez, c'est ça le scandale du chlordécone. Hein. Le scandale du chlordécone, ce n'est pas une toxicité découverte, c'est une toxicité connue avant l'autorisation de mise sur le marché. Et dans tout l'historique du chlordécone, qui fait l'objet d'ailleurs d'une plainte, qui est en ce moment instruite au parquet de Paris, hein. Dans tout l'historique, on se rend compte qu'il y a eu une pression de lobby. D'abord, cette molécule a été interdite aux États-Unis en 1976, après la découverte de cet accident de Virginie, mais la molécule a été rachetée par le Brésil à la demande d'une société martiniquaise, du Pont de Nemours. D'une société martiniquaise qui est passée par du Pont de Nemours, elle a été reformulée dans l'Aude pour la mise en service en Guadeloupe, en Martinique, en Côte d'Ivoire, au Cameroun. Elle n'a pas été utilisée, à ma connaissance, sur le sol hexagonal. Ce qui fait que c'est effectivement un scandale particulier. C'est-à-dire que quand on l'a reformulée dans l'Aude, on avait bien conscience qu'elle était toxique et on ne l'a pas utilisée sur le sol français métropolitain. On l'a utilisée, il faut dire qu'elle était utilisée uniquement pour la banane, pour le charançon de la banane.
Et par quoi ça a été remplacé d'ailleurs ?
On a utilisé le chlordécone pour fabriquer du Kélévent contre certains parasites de la pomme de terre.
Par quoi ça a été remplacé ?
Il y a ce scandale qui fait que les lobbies sont suffisamment puissants pour acheter une molécule interdite, pour la faire reformuler et l'utiliser sur le sol martiniquais, guadeloupéen, Côte d'Ivoire, Cameroun, contre le charançon de la banane. Et là, j'écoutais votre émission de ces personnes qui sont de ces exploitants qui font du bio. Nous avons des expériences en Martinique où maintenant que le chlordécone est interdit, on se rend compte qu'on avait une solution biologique.
Voilà, c'est la question que je voulais vous poser. Par quoi on l'a remplacé du coup ?
Mais écoutez, on l'a remplacé par des pièges mécaniques à charançon que l'on connaissait avant 72. C'est-à-dire qu'on avait une solution biologique avant 72, on a utilisé la solution chimique parce qu'elle était plus économique et moins consommatrice de main-d'œuvre, pour revenir, après avoir massivement intoxiqué l'écosystème, à la solution biologique. Et c'est là que la réflexion doit se poser, finalement. Mmh. Il arrive un moment où on est obligé de faire marche arrière. Mais quand on fait marche arrière, eh bien, on a déjà pollué l'écosystème. Et vous avez aujourd'hui, en Martinique, une exploitation de bananes bio, qui justement essaie de démontrer que l'on peut faire une agriculture martiniquaise de bananes à grande échelle, sans utiliser de produits, simplement avec une connaissance de l'écosystème beaucoup plus approfondie, de l'écosystème tropical. Donc c'est un exploitant qui a fait venir des ingénieurs agronomes de Cuba, hein, qui est une île donc de la Caraïbe qui a à peu près le même écosystème que nous, et dans l'observation justement des forêts, des produits donnés par la forêt, ils utilisent beaucoup de déjections de porcs. Mmh. Ils se sont rendus compte qu'entre les déjections d'animaux, c'est les déjections de porcs qui étaient beaucoup plus efficaces contre le charançon, et finalement font une banane totalement biologique avec simplement une observation du milieu, des possibilités du milieu. Mais cet exploitant, eh bien, il a les pires difficultés relationnelles par rapport aux autres exploitants qui utilisent les méthodes conventionnelles.
Eh bien, merci Josiane Jospelage de nous avoir fait part de ce témoignage de la situation en Martinique. C'est vrai qu'on peut s'interroger, vous parliez des lobbies, hein, des lobbies des entreprises, c'est vrai qu'on peut s'interroger aussi sur les études et la manipulation, la tentation en tout cas de manipuler les études par les entreprises phytosanitaires. Récemment, des grands journaux européens, Le Monde, Le Guardian, Der Spiegel, révélaient que la grande majorité des études qui avaient fondé l'opinion des autorités européennes pour réautoriser le glyphosate ne remplissait pas les critères de conformité, Catherine Hill.
Oui, j'ai vu ça, mais ça c'est tout à fait en dehors de mon champ d'expertise. Ce sont surtout.
Mais vous pouvez avoir un avis.
Les essais, si ça a été dit, c'est probablement vrai. Donc, mais en fait, quand même, tout est dans la dose et le fait qu'on retrouve le chlordécone, c'est un produit qui reste dans l'environnement. Donc c'est essentiellement un problème d'environnement. Et je ne pense pas que ça soit un problème de santé publique majeur en Martinique et en Guadeloupe, parce que je ne pense pas que la population soit dans un état de santé particulièrement catastrophique. Donc il faut quand même, peut-être que les études que l'interlocutrice précédente réclamait ne sont pas faites.
Bon, en tout cas, elle est malheureusement plus parmi nous pour répondre, mais enfin, elle vit sur place, elle est médecin, oui. Elle sait ce dont elle parle.
Oui, mais si ce sont les médecins de Martinique peuvent faire une étude comparant les dosages sanguins de je ne sais pas quoi.
C'est ce qu'elle a expliqué, elle le demande, mais pour l'instant cette étude ne peut pas être mise en œuvre.
Mais ils peuvent le faire eux-mêmes, ils n'ont pas besoin de personne en fait. Et c'est une chose qu'on peut faire, on fait les dosages dans les hôpitaux. Donc je ne comprends pas très bien le problème. Et la discussion sur le cancer de la prostate me semble encore ouverte parce que les populations d'origine africaine, bon, notamment les Américains noirs, ont énormément de cancers de la prostate. Donc il y a un problème aussi génétique et ethnique dans cette affaire.
Il se trouve que Josiane Jospelage, qui est médecin en Martinique, n'a pas raccroché. Donc je vous laisse répondre, Josiane.
Mais écoutez, il y a peut-être une origine ethnogéographique, mais quand vous regardez l'évolution, parce que nous avons un registre du cancer en Martinique depuis les années 80, quand vous regardez l'évolution de la courbe du cancer de la prostate depuis les années 80, elle est certes peut-être au-dessus du niveau de celle de la France hexagonale, mais il y a un décrochage exponentiel depuis 1995. On ne peut pas avoir changé d'origine ethnogéographique entre 81 et 95. Hein? De toute façon, il y a effectivement une surreprésentation, une surexposition liée à l'origine ethnique, mais nous avons une augmentation exponentielle depuis 1995 qui correspond aux 20 ans d'utilisation du chlordécone. L'origine ethnique, elle existe depuis 3 siècles, depuis 1635. On n'a pas changé d'origine ethnique entre 81 et 95. Donc on ne peut pas mettre sur le compte de l'origine afro-descendante le fait qu'on a une explosion de cancer de la prostate.
Sur franceinter.fr, Simon nous dit « Pourquoi ne pas faire avec les pesticides comme on le fait avec les moyens mis en œuvre pour trouver les vaccins contre le civil ? Si on le faisait, on trouverait certainement très rapidement des solutions de remplacement. » Georgette qui nous dit « L'utilisation des pesticides en agriculture est très réduite en Drôme et Ardèche et j'en suis contente. Nous avons du bon pain, des bons légumes, des bons fruits et de la bonne viande. » Et puis cet autre témoignage de Alban qui nous explique « Je suis un paysan bio, un monde sans pesticides est possible, mais la baisse de rendement va amener une hausse des prix et une distorsion de la concurrence. » On va pouvoir en parler puisqu'on est encore ensemble jusqu'à 13h. L'agriculture peut-elle se passer de pesticides ? C'est la question qu'on se pose aujourd'hui dans le débat de midi.
The ring of a lawmaker. He's got the cures we need. People rejoice in that. They say how hard it's been and how easy it'll be.
Side, c'est le nom de ce groupe américano-chilien et Lawmaker, c'est le titre qu'on vient d'écouter. Si vous voulez plus d'infos, le site de France Inter est là pour vous.
Thomas Chauvineau, le débat de midi.
Peut-on se passer de pesticides ou alors comment se passer de pesticides ? C'est la question qu'on se pose aujourd'hui avec Samuel Vandel qui est président des Jeunes Agriculteurs, Benoît Biteau qui est agriculteur bio, également député européen, Catherine Hill, épidémiologiste et Jean-Marc Bonmatin, chercheur chimiste et toxicologue au CNRS. Jean-Marc Bonmatin, l'INSERM a rendu un rapport très conséquent fin juin 2021 avec plus de 5300 publications scientifiques qui ont été décortiquées, analysées, et donc les conclusions sur les effets des pesticides sur la santé sont sans appel, selon l'INSERM.
Effectivement, oui, un certain nombre de maladies ont été pointées du doigt liées aux pesticides, alors avec des présomptions faibles, moyennes et fortes. Mais ce qu'il faut voir, c'est qu'il s'agit de la santé de nos concitoyens. C'est-à-dire que derrière ces statistiques, il y a des vies, il y a des cancers, il y a de l'autisme, il y a de la perturbation endocrinienne. Donc, quand on regarde ça de plus près, on se rend compte qu'on a mis sur le marché des pesticides qui se sont révélés extrêmement toxiques et qui ont des impacts sur les populations. Quand j'entendais dire tout à l'heure que c'était la dose qui fait le poison, ce n'est plus le cas. Ça, c'était le vieux principe de Paracelse au XVIe siècle.
Oui.
Aujourd'hui, c'est
un peu moyenâgeux.
La présence de pesticides, on fait des molécules extrêmement toxiques, et c'est la durée pendant laquelle on est exposé qui compte le
Bien
plus,
sûr.
Notamment dans le jeune âge.
Et l'âge également, en effet.
Oui, oui, le jeune âge est le plus sensible. C'est-à-dire que, par exemple, sur le neurodéveloppement, vous avez des cerveaux qui sont en construction, et si vous mettez ces molécules qui sont extrêmement toxiques, eh bien, on a des problèmes d'autisme, on a des problèmes de neurodéveloppement, et ça, on s'en rend compte au-delà même des cancers. Hein. Donc, toutes ces maladies qui sont liées aux pesticides, on peut les éviter avec des évaluations beaucoup plus strictes, c'est-à-dire aller voir sur le long terme, aller voir les effets cumulés de plusieurs pesticides, aller voir les métabolites, comme il avait été spécifié tout à l'heure pour le glyphosate. Et ça passe sous le radar de l'évaluation. Donc il faut vraiment augmenter le niveau de sécurité des évaluations. Parce qu'il ne s'agit pas de culpabiliser les agriculteurs. Il s'agit à un moment donné de dire, bon, on va être beaucoup plus strict pour éviter ces maladies. L'épidémiologie se rend compte des problèmes une fois qu'ils sont là. Nous, on aimerait éviter qu'ils n'arrivent.
Alors, en juillet dernier, le groupe allemand Bayer a annoncé qu'il allait enregistrer une provision supplémentaire d'un montant de 4,5 milliards de dollars pour faire face aux conséquences potentielles de poursuites liées au glyphosate, justement. Donc, on imagine que si Bayer provisionne, c'est qu'ils se doutent bien qu'ils vont perdre des procès, donc c'est qu'ils se doutent bien que le glyphosate peut avoir des conséquences. Jean-Marc, bon matin.
Chez les chimistes, il y a pas photo, hein, il y a un consensus, on le sait très bien. Les évaluations n'ont pas été faites correctement et il y a des trous dans la raquette, comme on dit. Et effectivement, quand il s'agit de laboratoires académiques qui évaluent le glyphosate, on se rend compte d'un certain nombre de choses, alors que quand c'est la toxicologie réglementaire, celle qui est appliquée, donc la toxicologie auxquelles les compagnies qui fabriquent les produits participent. À ce moment-là, on dit tout va bien. Donc je crois qu'il faut être honnête. Le glyphosate, c'est encore une fois un pesticide qui est souvent utilisé en confort. On pourrait s'en passer. Il y a d'autres méthodes qui sont alternatives. Si on oblige à utiliser ces méthodes alternatives, le coût sera peut-être un petit peu plus cher. Mais si on regarde l'ensemble des coûts cachés des pesticides, on y gagnera certainement. Parce qu'il faut voir que les coûts cachés des pesticides, c'est l'environnement, la biodiversité, la santé, tout ça, ça rentre en compte.
À long terme, pour la société.
Ce que j'observe, c'est que les bénéfices sont toujours privés et le coût, il est généralisé, il est payé par
la population. Samuel Vandel.
Ouais, moi je voulais rebondir entre autres à ce qui vient d'être dit et ce que disait Alban tout à l'heure dans son intervention, et c'est peut-être là où on n'est pas d'accord avec Benoît Biteau, mais oui, aujourd'hui clairement, si il y a aussi une question de rémunération des agriculteurs, et ça me semble important. La rémunération,
Alban, c'est cet auditeur qui nous a écrit pour dire que si on se passe de pesticides, on va augmenter les prix.
Il y a cette idée là et puis aussi n'importons pas l'agriculture que nous ne voulons pas, parce que je rappelle que la France est aussi un importateur important de produits qui ne correspondent pas à nos standards de production. Et là, l'Europe a un rôle à jouer aussi très important. Donc oui, passer en bio, ça coûte plus cher. Ça coûte plus cher. Mais ça veut dire que le consommateur doit être prêt à payer plus cher. Parce que, là, ce que disait à l'instant, quand on est en agriculture biologique et qu'on doit embaucher 10, 15, 20 personnes pour désherber à la main, déjà d'une, ces personnes-là, il faut les trouver. 80% du temps, ce ne sont pas des travailleurs français. Parce que les Français ne veulent pas aller désherber à la main. Deuxièmement, il faut les payer. Et ça coûte cher. Et donc, cette charge en plus se retrouver dans le produit.
Mais comme vient de le dire Jean-Marc Bonmatin, les maladies aussi, derrière, coûtent cher à la société.
Benoît Biteau. Et c'est là où il faut convoquer l'approche globale. On a beaucoup parlé des risques sanitaires liés aux pesticides sur la santé, mais il faut aussi parler de la problématique de l'effondrement de la biodiversité, de la problématique climatique. Et l'agriculture qui utilise les pesticides, c'est aussi celle-là qui pose problème sur l'effondrement de la biodiversité et le changement climatique. Et donc là, je reprends ma casquette d'élu et de garant du bon usage de l'argent public. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand on on regarde comment
vous
on distribue...
Vous êtes également député, hein,
ouais. Quand je regarde comment on distribue les aides de la PAC, c'est l'agriculture qui utilise le plus massivement de pesticides, qui enlève la plus grosse enveloppe de la PAC. Et donc, si on prenait la décision de demain orienter les politiques publiques vers la transition agricole, vers d'autres pratiques agricoles, on aurait un levier considérable pour faire évoluer les pratiques et faire découvrir, comme le demandait Samuel tout à l'heure, faire découvrir aux agriculteurs que d'autres pratiques existent, que des alternatives existent. Mais il y a aussi tout le coût des politiques curative, c'est-à-dire que quand j'entends que l'agriculture biologique est trop chère, si on agrégeait le coût des politiques publiques curatives nécessaires pour réparer les dégâts sur la biodiversité, le climat et la santé de l'agriculture qui utilise des pesticides, on se rendrait compte qu'en réalité, les produits bio sont les produits les moins chers possibles. Et donc là, on peut, si on utilisait ces enveloppes publiques dans des solutions préventives plutôt que des solutions curatives, eh bien on aurait un vrai levier pour soutenir le revenu des paysans.
Il y aurait encore beaucoup à dire. Merci. Merci à tous les quatre. On refera une émission d'avoir été en direct avec nous dans le débat de midi. C'est fini pour aujourd'hui. Mais on se retrouve lundi. On s'intéressera au steak végétarien, au steak végétaux de la viande qui n'est pas vraiment de la viande. Est-ce que c'est une alternative crédible ou un coup marketing? On attend déjà vos réactions sur l'appli de France Inter.